enfin j'étais la cheville ouvrière, on va dire, de l'importation. Donc il y a eu le fait de refaire l'atelier dans le groupe qui était en train de se constituer autour de Julien. Et puis assez rapidement, ils s'en sont emparés. Et moi, j'ai continué à travailler avec Julien par ailleurs, enfin pas par ailleurs, mais dans ce même avancement du travail autour de cette question de la partition. Et donc, on a expérimenté plusieurs variations. Quoi. J'ai pas pris part à des expérimentations des derniers parce que ça fait un moment qu'on se voit plus aussi régulièrement. Mais et ce qui était super chouette, c'était de voir qu'est-ce qu'il y avait de similaire, c'était cette espèce d'intuition d'un truc qui prend au milieu du collectif, enfin de voir que ça marchait, quoi, qu'il y avait vraiment une fabrication d'un objet, enfin de quelque chose qui prenait une vie propre progressivement et qui échappait à chacun des membres du groupe. Donc ça, c'était très gai. Les gros contrastes, évidemment, c'est que les matériaux de base sur lesquels on travaille allaient ratisser beaucoup plus, dans des zones très différentes de l'expérience, qui était plutôt l'expérience sensorielle.
Un des contrastes pour moi évident, c'est que c'est vrai qu'à l'atelier, il y avait pas mal de voix, de discussions off, de rigolades, etc. Tandis que ça devient beaucoup plus silencieux. Il y a une dimension un peu sacrale qu'on n'avait pas du tout.
Oui, enfin...
Enfin, au film. Hein.
Oui, c'est ça. Mais je crois qu'un des films qu'il y avait dans ce que tu as envoyé, c'était aussi c'était la performance au Brigittine, je pense. Mmh. Quand on travaillait à expérimenter...
Ça parlait.
Ensemble, c'est pas spécialement que ça parlait, mais c'était
quand
plus...
On
se chipotait, quoi. Et donc, il y a des moments où... Comment dire, je sais pas s'il y avait vraiment ces moments plus off, effectivement, ou ces passages du off... qui avait beaucoup dans la manière dont on fonctionnait. Je sais pas s'il y avait autant ça, mais il y avait pas du tout cette idée de cette ambiance sacrale ou quoi. On était tous quand je me souviens, quand on travaillait à expérimenter mais effectivement faudrait imaginer ce que ça aurait donné si on avait fait un de nos ateliers en tant que performance.
On n'aurait pas pu.
Ça, enfin, voilà,
on n'aurait pas pu. Non, c'était strictement... on peut pas... Enfin, je veux dire... Il n'y a peut-être qu'en danse qu'on peut tenter de marier l'expérimentation et la performance publique. Mais en philo, ça n'aurait pas beaucoup de sens, je crois. Parce qu'en philo, le vrai... Pour moi, le vrai... en jeu et qui pouvait intéresser n'importe qui, pas seulement les philosophes, c'était de produire collectivement des régimes de pensée, des régimes d'expérience pensante qui ont quelque chose à voir avec celui qu'on peut avoir quand on est philosophe au travail solitaire et qu'une idée vient et qu'on essaye de la poursuivre. Et l'anonymisation de celui qui tout à coup tente de suivre une idée qui n'est pas encore routinière. Donc c'était ce régime de pensée qui est usuellement lié à l'écriture et donc à une certaine solitude, qu'il s'agissait éventuellement de faire goûter à des gens dont le métier n'est pas ou pas encore pour les étudiants, peut-être jamais pour certains étudiants, en tout cas pas ou pas encore l'écriture, qui sera cette anonymisation, cette démoïsation de la pensée sous l'effet d'une situation qui qui doit être, et c'était pour ça le ralentissement, qui doit être plus forte que... dont la question doit être venir de n'importe où, mais en tout cas avoir la force de ralentir la pensée discursive, la pensée intentionnelle. Donc c'est vrai que là, ça se prêtait à des allers-retours in-off, parce que justement, la situation avait sa force. Les deux faces du tableau. Enfin, quand ça prenait, c'était... Et ici, quand ça prend, c'est quoi comme effet ?
Je crois que tu peux mieux en parler que moi.
Mais... je vais commencer par parler de mon expérience quand j'ai pratiqué le dispositif tel que Jonathan a transmis, donc j'imagine tel que vous le connaissez, à peu de choses près.
C'était le biface
ou... Oui, c'est ça. Où justement cette démoïsation, c'est un des aspects de l'expérience qui pour moi était assez prégnant et assez intéressant, où j'avais l'impression qu'au début... le tableau était un peu une surface où chacun venait y aller de son point de vue ou de ses doutes par rapport à l'énoncé de départ et à ce qui se développait. Et puis au fur et à mesure que ça se passait, les fois où, comme Jonathan disait, ça prenait, ce qui se passait, c'est que c'est comme si ce paysage de pensée s'autonomisait et à travers nous, il trouvait le chemin pour se développer. Donc au départ, c'était des individus qui laborieusement et volontairement posaient des questions ou amenaient des points de vue sur les questions amenées par l'énoncé. Et puis au fur et à mesure, ces énoncés, ces questions entre eux, ces deux faces prenaient une autonomie. Et de plus en plus, j'avais l'impression que notre travail, c'était de permettre à ce paysage de se développer, quoi qu'on en pense.
C'est l'espèce de renversement que tout auteur connaît. Enfin, non, mais qui doit exister ailleurs autrement, quand ça, c'est le texte qui se met à commenter. Enfin, à commander, pas au sens de Souriau, je ne sais pas si tu lui as...
Oui, il a dû.
Où il s'agit de deviner ce que ce truc demande. Et c'est pour ça qu'on aime bien Souriau, parce que ça correspond très fort à quelque chose qui n'est pas une démission de l'auteur. Il n'y a aucun deuil, il n'y a pas d'assaise, puisque c'est la force, c'est plutôt une jouissance.
Oui, en fait, c'est les moments qui sont les plus satisfaisants aussi.
Oui.
Y compris au niveau individuel, c'est les moments où quelque chose qui se passe à travers soi, qu'on ne reconnaît pas comme étant soi, qu'on...
Ouais. Et qui n'a rien à voir avec une espèce de transe, qui sont les moyens usuels de quitter le soi. On n'est pas en transe. On peut...
Ouais.
En tout cas, à l'atelier de philo, on n'était pas en transe.
Non. Non. Mais c'est marrant parce qu'on discutait hier, on s'est vu hier pour déjà déblayer un peu le terrain. Et Julien parlait de... Justement, elle avait amené cette notion de transe par rapport au livre que moi j'ai pas lu, mais au livre récent que tu avais écrit sur l'hypnose.
Ah oui, j'ai vu.
Où il y avait cette notion de transe, justement.
Enfin, je relevais cette citation. Il y a quelque part une note qui renvoie à un autre livre que je pense, si je ne me trompe pas, vous avez co-signé.
Avec Hirtok.
Oui, c'est ça. Et où justement, vous dites qu'on est toujours en transe.
Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas transe au sens. Encore une fois. Sacral du terme. On ne perd pas les pédales. Simplement, il y a quelqu'un d'autre. Enfin, c'est plutôt le vélo qui change, les pédales. Enfin, c'est l'agencement qui change. C'est pas qu'on perd les pédales, mais l'agencement change. Et les pédales qu'on a sont autrement liées à ce qui se fait. Mais on ne perd pas, on n'est pas pris dans quelque chose. Non, c'est pour ça qu'on aime bien Souriau, on est à la devine. On est mis à la devine par ce qui a acquis le pouvoir de vous mettre à la devine.
Oui, enfin, maintenant que j'y pense, c'est ce truc de devine, c'est en même temps, il y a une espèce de prudence qui s'impose parce qu'on sait que y a quelque chose là qui demande quelque chose et il faut y être attentif, et en même temps, une espèce de confiance, c'est-à-dire on sent qu'il y a quelque chose qui s'installe, quoi, et c'est. Oui, c'est
Et le
assez.
fait que c'est collectif fait que ça perd une dimension dramatique de mise à la devine comme chez Souriau. Non, non. Et c'est pour ça que l'idée était que quelqu'un pose une question, ou etc., et que ça peut rester sans suite. C'est-à-dire tout ne va pas être gâché par quelque chose d'un peu. Tout serait gâché si tout le monde était. Enfin, si. C'est pour ça que parfois je jouais les dragons, quand il y avait notamment des nouveaux qui allaient vite. Parce que là, ça pouvait pas prendre. Enfin, on faisait des maux d'esprit. Alors je grognais. Tu te souviens?
Oui.
Parce que c'est ça qu'il faut éviter. Parce que ça, alors, tac, 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 le tableau est rempli en 5 minutes et rien n'a eu lieu, quoi. Mais ça, pour que des gens acceptent qu'ils devaient mettre de côté les maux d'esprit ou les petits rapports interpersonnels, tu dis ça, je dis ça, tu dis ça, je dis ça, les jeux de ping-pong intelligents, il fallait vraiment là être féroce.
Oui, c'est une dimension intéressante. Pour moi aussi, cet apparent paradoxe, et en fait, quand on le pratique, c'est pas du tout un paradoxe, ça semble une évidence, une nécessité, mais entre la volonté de créer une situation où on pense collectivement, et puis de s'apercevoir qu'à l'intérieur de ce collectif, il faut un guide, un dragon,
Ou deux ou trois,
ou deux ou
hein.
trois, oui, c'est ça doit pas forcément être une
Ben, il y en
personne.
a qui sont en charge du. Et à la limite, après, ça peut être. Il peut ne plus y avoir besoin, mais comme c'était un dispositif ouvert où on accueillait des gens qui n'en avaient pas l'expérience, il fallait quelqu'un qui rappelle pendant l'expérience quelque chose qui avait été dit avant, mais qu'il était facile d'oublier avant. Les contraintes, quoi.
Ouais.
Mais peut-être avant de parce
Donc
que
ça jouait beaucoup sur ce qu'on appelle contrainte,
oui, absolument.
qui n'est pas limite, qui semble agir comme une limite, mais c'est pour produire quelque chose que la contrainte ne dit pas.
Comme c'était quelque chose qu'on avait envie d'approfondir, cette histoire de guide et tout ça,
Ouais.
peut-être avant, ce serait peut-être intéressant de voir un peu plus dans les dispositifs tels que vous les avez fabriqués, adaptés, etc. À la danse. Comment ça se passe ce moment ou éventuellement de dérive, c'est-à-dire est-ce que ce serait quoi les dérives, genre mot d'esprit,
Mais oui.
qu'est-ce qui
Où sont les dangers,
oui, où
quoi? À
sont les
quoi est-ce qu'il faut
dangers?
faire attention quand on sait, quand on a une certaine expérience, puisque la seule chose qui autorise un dragon, c'est l'expérience et la confiance que ça peut se produire, mais que si ça part par là, ça ne se produira
Qu'est-ce
pas.
qui ferait que si un débutant arrive chez vous à nouveau et qui pourrait ne faire retomber la mayonnaise, quoi?
Si maintenant je m'écarte, je pourrais en parler aussi de ce qui s'est passé pour nous quand on a commencé à pratiquer le dispositif tel que Jonathan nous l'a transmis. Donc ça, c'est une chose. Le premier défi, ça a été de lâcher l'identification aux énoncés ou aux questions qu'on inscrit sur le tableau, donc qu'on donne au collectif. C'était difficile de lâcher ça, de lâcher la réactivité qu'on pouvait avoir. Quand d'autres amenaient des énoncés qui semblaient contredire ce que nous on avait dit, ou qui lui donnaient un tour qui nous plaisait pas parce que ça correspondait pas à notre point de vue, à notre sentiment sur ce qu'on avait voulu véhiculer là-dedans. Et donc aussi des situations, des ping-pong interpersonnels qui se faisaient pas tellement sur des mots d'esprit ou des jeux de virtuosité conceptuelle, mais plutôt sur un attachement, hein, un point de vue. Voilà, donc ça, on a dû apprendre ça, on a dû apprendre à accepter par exemple que des accepter le principe que des questions soient éliminées parce qu'elles nous mettaient sur une mauvaise voie. On l'a très peu utilisé, mais ça choquait, je pense notamment parce que le travail collectif, à l'inverse du travail de philosophe...
C'était pas parce qu'elles nous mettaient sur la mauvaise voie, c'est parce qu'elles n'étaient pas reprises. Ou bien on l'éliminait parce qu'elle était hors jeu. C'est-à-dire que, par exemple, la question faisait déjà allusion à l'autre côté du tableau.
Ouais.
Ouais, ça...
Mais ce qui se passe, c'est que donc, pour les danseurs, nous, on vient... Enfin, c'est pas mon cas parce que moi, j'ai un parcours plutôt au départ de plasticien, donc j'ai plutôt l'habitude d'un travail solitaire aussi, comme c'est le cas des philosophes, mais... En danse, en gros, on a beaucoup l'habitude de travailler ensemble et c'est l'activité solitaire qui est rare. Donc c'est un peu le point de départ différent du philosophe. Et donc il y a cette habitude de la collectivité, mais qui vient aussi avec souvent une espèce de goût pour l'espèce de collégialité, de bonne volonté. Enfin de bonne volonté, que chacun ait sa place, etc. Donc l'idée d'éliminer une question que quelqu'un avait amenée, ça a choqué certains. Parce que c'était, encore une fois, ça a à voir avec l'identification, c'était comme si on discréditait quelqu'un.
Donc il y avait un dragon, comment est-ce que ça se passait l'élimination?
Jonathan au début prenait ce rôle de dragon, et puis quand Jonathan n'était plus avec moi, c'est moi qui ai pris le relais.
Et c'était quoi? C'était les questions éliminées, elles l'étaient parce que simplement elles n'avaient pas trouvé de réponse énonciative ou bien parce qu'elles étaient...
C'était un peu les deux, mais non, parce que là c'est pas vraiment le rôle d'un dragon, mais c'était plutôt...
Non, ça c'est le processus.
Voilà, ça c'est le processus. Non, le rôle du dragon c'était plutôt dire attention, si on va comme ça, effectivement, là c'est trop explicite par rapport à un lien, ou bien... et donc ça va faire dégonfler le truc, enfin, on va s'engouffrer là-dedans et puis ça va être la même chose que nous parce que là on parle du même dispositif Julien a très très vite compris le machin, enfin, c'est pas pour rien qu'il m'avait invité non plus parce que ça le travaillait déjà, donc il a pas eu trop de mal à s'acculturer à ce niveau-là et donc à reprendre le rôle de dragon. Moi, ce qui m'a épaté, c'est genre 15 jours après, je retourne, et de trouver le dispositif complètement transformé, et de voir que ça marchait aussi bien, ça m'a épaté.
Oui, alors que donc, quand ça s'est mis à se transformer, les écueils sont devenus différents.
Oui.
Et donc,
ça a été quoi la première transformation? Parce que j'aime bien les histoires.
Oui, la première transformation importante, c'est qu'à un moment, on s'est dit... Bon, là, on part d'énoncer déjà assez élaboré conceptuellement. On avait la même banque de base que... C'est Jonathan qui m'a transmis la banque au départ. Donc, on avait ces énoncés que...
Qui étaient censés s'enrichir avec les énoncés produits.
C'est voilà. Ça. Oui, donc peut-être que vous ne connaissez pas toute la banque, mais vous avez une idée de ce dont il s'agit. Et donc, voilà, le point de départ, c'est des énoncés déjà élaborés. Qui sont tirés au hasard et dont on ignore le contexte. Et donc nous, la première chose qui a changé, c'est changer ça. On s'est dit qu'on avait besoin d'énoncés de base plus simples et qu'on avait envie d'expérimenter ce qui se passerait si ces énoncés ils étaient liés à une expérience que tout le monde dans le groupe avait vécue, même si différemment. Donc on a commencé à travailler des explorations sensorielles, donc... une pratique en gros qu'on connaissait, qui était assez partagée dans le groupe. On se donne par exemple 20 minutes pour observer la relation entre toucher et mouvement en explorant l'environnement. Voilà, on fait ça où on travaille sur le regard ou avec des petites consignes qui permettent de porter son attention de manière fine sur comment ça joue perception et action dans la relation à l'environnement. Et on a fait ça. Après, on avait une étape où un peu réflexif, on mettait en mots un peu notre expérience individuellement. Et puis après, on extrayait des énoncés potentiels et qui devenaient ensuite des énoncés qui étaient effectivement mis en jeu au départ des deux côtés d'un tableau, donc en reprenant à partir de ce moment-là la même
structure. Mais il y avait... pas, enfin, c'est a, si l'ensemble des énoncés provenait d'une expérience, déjà, est-ce que les énoncés n'étaient pas extrêmement homogènes?
Ah, il était beaucoup plus que ce n'était le cas dans le dispositif initial, avec la banque d'énoncés initiale, oui, tout à fait.
Mais pour que ce soit clair, les deux énoncés qui étaient pris au hasard étaient pris dans les énoncés qui venaient d'une même séance.
Oui, c'est ça.
Donc effectivement, c'est assez homogène.
Et en fait, après, ça a évolué. Et en fait, ce qui nous est apparu, c'est qu'il n'y avait plus tellement d'enjeux, effectivement, notamment du fait de cette homogénéité, il n'y avait plus tellement d'enjeux dans le fait d'avoir deux faces. Et en fait, ce qui s'est révélé, c'est que plutôt que d'avoir une hétérogénéité qui vienne de deux énoncés distincts tirés au hasard, en fait, l'hétérogénéité qui nous intéressait, c'était l'hétérogénéité entre l'expérience sensorielle qui ressort pas tellement de la logique conceptuelle et verbale, et des énoncés conceptuels exprimés verbalement. Et que c'était ça, en fait, ça devenait ça, quelque part, les deux faces de notre tableau à faire jouer ensemble. Donc c'était ça qui s'est mis à nous intéresser. Et en fait, il y avait encore une autre manière de voir le dédoublement des faces et l'hétérogénéité, c'était entre l'expérience individuelle et collective. C'est-à-dire qu'à un moment, on a carrément laissé tomber le tableau en tant que tel, on n'utilisait plus l'objet tableau.
Oui, puisqu'il n'y avait plus besoin de deux faces.
Voilà, donc, c'est ça.
L'objet tombé. Voilà. Et puis il y a une logique, hein, puisque les énoncés deviennent homogènes, il n'y a plus besoin de deux faces, donc il n'y a plus besoin de tableau.
Voilà. Et donc, on s'est mis en fait à parler pendant que l'on menait de telles explorations sensorielles, celles que j'ai décrites, mais tout le monde parlait en même temps. Du coup, ça faisait une ligne de pensée individuelle, chacun en prise avec sa propre expérience, parlait de son expérience, la mettait en mots, et ça, le fait de la mettre en mots, ça crée une distance qui lui permettait d'être réflexif sur cette expérience et sur les choix qu'il opérait pour décrire cette expérience. Donc, une espèce de mise en abîme réflexif comme ça, qui a amené à pouvoir formuler des énoncés. Et à partir du moment où quelqu'un arrivait à un énoncé, il l'annonçait pour tout le groupe de manière explicite, il disait « énoncé », tout le groupe se taisait et il formulait de manière verbale, audible pour tout le monde, l'énoncé qu'il avait trouvé, et il l'inscrivait sur un carton qu'il mettait quelque part dans le lieu, de sorte à ce qu'on puisse s'y référer plus tard. Et à partir de ce moment-là, cet énoncé-là devenait une référence pour tout le groupe. Enfin, plus qu'une référence, ça devenait un lieu de passage obligé pour tout le groupe. Donc chacun reprenait son chemin individuel, mais dans son exploration et dans sa parole, dans sa pensée, il devait digérer cet énoncé pour le questionner, le transformer, y réfléchir, de sorte que la prochaine énoncé qui vienne soit une réponse au premier énoncé qui avait été donné au collectif, mais une réponse qui vient pas seulement du cheminement purement conceptuel, mais aussi d'une mise à l'épreuve de cet énoncé.
Faut pas dire purement conceptuel, nous on n'était pas dans le purement conceptuel, mais enfin.
Enfin, peut-être j'utilise mal les termes, en tout cas avec des connotations que vous lui donnez pas. Ce que je veux dire par là, c'est que la manière pour nous de nous rapporter à un énoncé, c'était en le testant par le toucher, le regard, l'action.
Tu sais, j'ai participé à des séances, enfin au moins une en tout cas, des séances comme ça, et c'est vrai que c'était assez jouissif au même sens que l'atelier de philo tel qu'on le faisait, c'est-à-dire, enfin, il faut imaginer une scène où, je sais pas, les explorations sensorielles, ça pouvait être les yeux fermés et essayer d'expérimenter les surfaces ou ce genre de choses, ou bien je me souviens d'un exercice aussi où c'est travailler sur le regard, mais essayer de ne pas utiliser le focus qu'on peut avoir dans les yeux, mais d'utiliser le corps pour, si on veut préciser, s'approcher ou s'éloigner, ou etc., mais essayer de rester neutre au niveau du travail des yeux. Si on veut regarder à gauche, par exemple, tourner à gauche. Et tout le monde qui parle de ce qu'il est en train de faire et de ce que ça lui fait. Et puis, donc c'est cette espèce de murmure qu'on entend quand même un peu, donc c'est un peu perméable, mais pas trop. Et puis tout d'un coup, quelqu'un qui dit un truc qui. Alors, hop, on change notre manière de faire, et puis quelqu'un d'autre dit autre chose. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de. On a l'impression d'être de plus en plus en espèce de. Sur la même longueur d'onde, quoi, littéralement. Et c'est vrai, c'était assez chouette hein, comme sensation.
Oui, oui. Non, quand je disais pas purement conceptuel, c'est que. C'est un autre matériel, mais avec ce qu'on appelle les énoncés, ils sortaient de n'importe où. On ne les étudiait pas conceptuellement.
Ah oui, non.
Hein.
Non, mais malgré tout, enfin, je me souviens.
On faisait rebondir des choses, quoi.
Oui, oui, mais on fabriquait quand même. Par exemple, je me souviens, je crois que c'est enfin, à mon avis, ça doit être une occurrence de l'atelier dont pas mal de gens se souviennent parce que c'était quand même bien marré. Mais quand on avait parlé de la différence entre la chasse et la traque, on avait quand même fabriqué des concepts, quoi. Je veux dire, le concept de chasse est...
Oui, mais c'est plutôt... C'est plutôt que des tas de choses qui sont dans un mot qui n'est pas fait pour être un concept,
se déplient,
se prolifèrent, et alors ça donne une impression de concept,
mais
c'est le mot qui est en train de proliférer avec des tas d'expériences. Donc c'est l'expérimentation sur la densité d'un mot et de toutes les associations qui vont avec, quoi. Enfin, de certaines, n'essayez pas d'être exhaustif. C'est une aventure de mots plutôt que... Et ça fait concept parce que les concepts, c'est aussi une aventure de mots. Mais c'était pas fait pour être conceptuel, c'était fait pour mettre la pensée à l'aventure. Mais c'est vrai que c'était une pensée, je dirais pas discursive, mais une pensée orale.
Oui,
c'était l'oralité de la pensée.
Dans le règne du langage, quand c'est ça la distinction que je voulais faire.
Langage, mémoire, enfin, tout ce qu'on veut, mais les mots prenaient des sens bizarres. Enfin, les mots se mettaient à... Effectivement, mais on ne cherchait pas de concept.
Non.
C'est les mots qui faisaient penser. Les mots et les syntaxes. Parce que parfois, il y avait des événements syntaxiques. Quelque chose avait été, une question, bouleverser la syntaxe. Alors...
Par exemple, ou alors s'il n'y a pas d'exemple, mais ça, je trouve ça intéressant, un événement syntaxique, vous pourriez développer ça, vous donner un exemple ou...
Ouf.
En même temps, j'arrive à l'envisager.
Serais un énoncé, enfin, je n'ai pas d'exemple, mais un énoncé qui affirme, comme tous les énoncés, qu'on produisait quelque chose, une question pouvait reprendre... une partie de l'énoncé, mais modifier complètement sa signification. Mais ça, il faut...
Ben, je sais pas, je pourrais... Enfin, là non plus, c'est pas un exemple, mais on pourrait imaginer un énoncé qui utilise un mot important dans l'énoncé, un verbe, par exemple, d'une manière intransitive, et puis tout d'un coup, quelqu'un va lui mettre un complément direct ou un machin comme ça qui va faire tout d'un coup ce mot, qui est le même mot, c'est pas un homonyme, justement, mais va prendre un rôle différent dans...
Ou bien,
dans
ça pouvait être un passage d'une forme active à une forme passive. Si, par exemple, je l'invente, si, par exemple, il y avait la traque, une question pouvait faire intervenir l'être traqué. Et à ce moment-là,
ça change
la perspective sur la situation. Tout à coup, on se souvient que qui dit traque dit que quelque chose est traqué. Et c'est celui-là qui devient le sujet dans la question et qui élargit le paysage. Donc, c'est des paysages portés par des mots, mais ce qui est important, c'est le paysage et pas l'énoncé. C'est le paysage qui se déploie autour d'un énoncé et qu'une question peut faire basculer, non pas en le niant, mais en y ajoutant un autre bout de paysage qui n'était pas, qui n'était pas véritablement attendu. Donc syntaxique, ce serait ça, ce serait le passage d'une forme comme tu, bah ici, voilà, traque. Mais traquer qui? Ouais. Et voilà que l'être traqué intervient comme sujet d'un énoncé, ou d'un énoncé en réponse, ça dépendait.
Ouais.
Mais en tout cas, ça voulait dire que l'énoncé ou la question avait suscité quelque chose qu'il ne prévoyait pas.
Parce que maintenant, on observe un peu ce travail sur les mots, le langage, la syntaxe. Ça me fait penser à une citation ou à des propos que j'ai relevés dans ce livre, L'hypnose entre magie et science, et qui nous ramènerait à la question de la... Comme vous disiez, démoification, désubjectification. Ou...
Je ne sais pas s'il faut dire désubjectification, parce que ça veut dire le sujet souverain. C'était... Mais il y a d'autres sens du mot subjectif où ça devenait beaucoup plus subjectif. C'est-à-dire beaucoup plus... on pourrait dire... Si on lit le sujet avec une capacité de création de l'inattendu.
Hein? Oui, ça, on pouvait des choses qu'on savait, on savait pas qu'on pouvait. Quoi.
Oui, c'est ça. Donc c'était aussi des explorations de processus de subjectivation. Mais donc c'est pour ça que le moi je pense, oui. La relation du sujet comme auteur à ce qu'il dit, ou. Dans votre cas, à ce qu'il produit comme mouvement, etc. Oui, ça, oui. Mais ce n'était pas impersonnel. C'était...
Oui, moi, l'expérience que j'ai souvent, c'est en fait en plongeant dans le personnel, dans le spécifique de chacun, c'est souvent le chemin pour atteindre à quelque chose... qui nous étonne nous-mêmes et où effectivement on est plus en train de gérer, de moduler des forces que d'être effectivement souverain, maître de ce qu'on produit.
Mais il y a une phrase dans le Souriau, son article, que j'aime beaucoup, qui est « Faut pas parler de l'influence qu'a eu l'exil, qu'a eu son exil dans l'écriture de l'enfer de Dante ». Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que l'œuvre se faisant a exploité ses souvenirs? Là aussi, c'est une inversion syntaxique. C'est plus du tout Dante qui se souvient de son exil et qui le met dans l'écriture de l'enfer. C'est l'enfer s'écrivant qui exploite tout ce qu'il peut en Dante et qui est devenu le sujet de... Mais ça ne veut pas dire que Dante a été défait comme sujet, ça veut dire que c'est un sujet surpris par ce pourquoi il est néanmoins nécessaire. Mais tout à coup, c'est son expérience passée qui a été transformée en autre chose qui ne lui appartient. C'est plus mon expérience, c'est quelque chose qui devient partie d'un processus qui... Donc c'est pas bouddhiste, du genre désappartenance, laisser aller, etc. C'est au contraire des ressources qu'on savait pas qu'on avait ou qu'on concevait autrement qui deviennent partie de quelque chose qui se fait, qui a été extrait par quelque chose qui se fait. Et ça, on avait souvent, en petit, hein, on n'est pas Dante, hein, on n'écrit pas l'enfer, mais on avait souvent ce truc qu'une situation vous faisait sortir quelque chose qui est à la fois à soi, mais qu'on ne savait pas qu'on avait. Hein?
Peut-être ça.
Et donc, à ce sujet, il y a donc ces propos là, dans ce livre, L'hypnose entre magie et science, où à un moment vous parlez de l'idée et du langage en jouant sur des connotations qui permettent de faire des liens entre le langage et l'idée, et puis des êtres justement qui interviennent dans des cas de transe de possession ou dans des êtres avec lesquels des chamans peuvent être en relation, etc. Et donc vous parlez du langage de cette manière comme quelque chose qui a pouvoir sur, aussi sur les humains, et parfois un pouvoir plus important, et dont l'humain peut être la proie.
C'était effectivement, comment dirais-je, dans le bouquin, surtout à la fin, après avoir déblayé le terrain du point de vue science, je me retourne du point de vue magie, et je dois lutter notamment contre Roustan, pour qui il y a une certaine authenticité dans l'absence d'imagination, d'être, etc., et qui revient à une espèce de vide bouddhique, enfin de type bouddhique. Je veux lutter pour ça, parce que ça renvoie, encore une fois, j'ai rien contre les transes de vide, hein, mais j'ai tout contre les hiérarchies, ou alors les trans africaines seront dans un degré inférieur par rapport à la vraie spiritualité bouddhique. Non, je veux créer un plan avec des divergences, mais pas d'hiérarchie. Surtout pas d'hiérarchie. Quand on tombe sur une hiérarchie, on est foutu, quoi. Enfin, on est retombé dans un attracteur. Et donc, mais l'idée, c'était, si on dit que la transe, pour les Africains notamment, n'importe pas en tant que tel, mais en tant que manière de l'être, de se présentifier, enfin, d'entrer dans l'expérience. Donc si on inverse l'importance de la transe par rapport à l'être qui se manifeste, on tombe sur l'idée, oui, mais et nous alors, hein, puisqu'on n'a plus d'être, on n'a plus de divinité, etc. Et donc c'était l'idée, mais si on en a, et on les connaît bien, mais il faut bien les décrire. Mmh. Et donc l'idée chez Platon, nous sommes le peuple de l'idée, il y a des gens qui se disent peuple d'une divinité, nous sommes le peuple d'idée. Si on lit Platon, c'est l'idée qui nous a donné, enfin, c'est par l'idée que nous avons une âme. Parce que l'âme est vie et mouvement, de par le rapport qui s'établit, le rapport de type érotique en plus, qui s'établit avec l'idée. Bon, eh bien, une âme qui n'est pas vie et mouvement, c'est pas une âme. Donc, c'est dans le rapport avec l'idée que nous avons, que nous nous créons humains, dotés d'une âme humaine platonicienne. Il y aura d'autres âmes chrétiennes et autres, mais ce ne sera pas des idées qui créeront l'âme chrétienne, mais elle sera, il y aura aussi. Bref, c'est tout, on pourrait dire, une histoire de l'âme. Et donc là, on peut faire intervenir Souriau aussi, parce que tout ce qui a le pouvoir de nous mettre quelque peu hors de nous-mêmes, on peut le mettre dans la lignée de ces autres arts de la transe qu'on rencontre en Afrique. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose, et d'autant plus que ça, je ne l'avais pas employé là-dedans, mais depuis, je me suis rendu compte que la phrase qui suit chez Whitehead était extraordinairement importante, qui est, juste après le banquet, Platon aurait évidemment, ça c'est Whitehead, dû écrire un autre dialogue qui se serait appelé « Les Furies », et qui aurait traité des horreurs qui rôdent dans une mauvaise réception de l'idée, une mauvaise réalisation de l'idée. Et ça, c'est tout nous, puisque dès le moment où nous nous approprions les idées, ou bien où on en fait le reflet de situation sociale, ou bien on en fait la vérité d'un sujet qui a des idées, ben, on entre dans les horreurs, dans les conneries de l'histoire occidentale. Donc, c'est à ce moment-là, les idées deviennent redoutables. Mais tous les êtres sont redoutables. Il faut toujours, c'est toujours un apprentissage de comment les recevoir, réaliser, être convoqué par eux, les convoquer, etc., qui prennent en compte, qui soit un art, parce que sinon c'est redoutable. une idée peut vous dévorer et on aboutit à des guerres de religion ou à des instituts de philosophie. Donc c'était un peu aussi, rétroactivement, quand, depuis que je prends ça, c'était aussi un apprentissage de l'art de l'accueil de l'idée. Et on pourrait dire que éventuellement que quand c'est décalé avec Soucette, c'est l'art de l'accueil de la sensation ou l'art de l'accueil du mouvement.
Oui, c'est ça, c'est, j'avais cette question en tête en vous écoutant. Est-ce qu'il y a un rapport privilégié entre idée et langage, ou est-ce que cette catégorie, est-ce qu'on pourrait imaginer d'idée? Est-ce que, par exemple, voilà, et quand ça se passe à travers le mouvement, à travers la danse, est-ce que c'est encore l'idée ou est-ce que c'est un autre type d'être?
Non, non, à mon avis, c'est un autre type d'être. Nous sommes le peuple de l'idée au sens où l'âme que nous nous attribuons a été inventée par Platon. Mais ça ne veut pas dire que ce peuple n'est pas d'autres êtres. Simplement, s'il faut, quand nous nous présentons aux autres, nous nous présentons avec nos idées. Nous avons les idées et vous avez les croyances. Enfin, Donc, ce qui nous fait redoutable, c'est les idées. Ce qui nous donne l'impression que nous sommes terriblement différents des autres, que nous allons leur apprendre à penser, c'est les idées. Donc j'ai privilégié les idées, d'abord parce que je les connais, mais aussi à cause de ce souci toujours de qu'est-ce qui nous est arrivé, qu'est-ce que nous avons fait aux autres en les jugeant comme nous l'avons fait, qui fait partie des horreurs des idées mal réalisées. Et de cette universalité que l'idée mal réalisée, transforme en évidence et en revendication et en prétention. Donc ce sont des choses qui... ce qui serait intéressant, c'est de savoir quels sont les dangers propres à ces êtres qu'on peut associer à des sensations mouvement. Quels sont... Tout ce qui arrive sur ce mode-là est redoutable et peut dévorer. Qu'est-ce qui, dans un dispositif, rend présent par les risques et apprend à civiliser dans le rapport avec ce qui se fait, enfin avec ces êtres-là, partant de l'idée que les Africains et autres, enfin les Africains, c'est Toby Nathan m'a surtout fait comprendre des choses qui implique le terrain africain, mais pour le zen par exemple, j'ai un copain qui s'est initié au zen et qui était très frappé par le fait que quand on lit les traités de zen, ce ne sont que des mises en garde. L'illumination, ne la cherchez pas. L'illumination n'est pas méritée. L'illumination peut aboutir, peut arriver à un moine ivre, alors que, enfin bref, des tas de choses qui doivent faire que l'illumination c'est quelque chose qui arrive, mais pas quelque chose qui est le but, sinon c'est plus l'illumination. Donc c'est rien que des mises en garde. Et donc j'ai l'impression que dans tout art qui implique ce genre de processus, il doit y avoir une dimension de mise en garde, mais qui s'adresse à la... qui est peut-être le profil de l'être même. En quoi est-il redoutable? Qu'est-ce qu'il peut nous faire? Qu'est-ce qu'il peut faire si on le réalise mal? Et pour les idées, on est payé pour savoir ce qu'il peut faire. Pour la foi aussi, guerre de religion... avec des guerres d'idées qui viennent s'incruster dans... Enfin bref, notre histoire est assez riche là-dedans. Mais je crois que c'est intéressant de savoir que chaque fois qu'il y a processus de création, il y a danger. Et il y a donc art de la réalisation qu'on appelle création, ou que Souriau appelle... Avec Souriau, ce qui est clair dans l'œuvre d'art, mais qui est plutôt plasticienne, c'est que si l'idée de projet survit, on devinera mal.
Si l'idée de projet survit,
Ben, puisqu'il dit l'œuvre est un trajet. Mm-hmm. N'a rien à voir avec un projet, mais psychologiquement, on peut avoir un projet. Si le projet survit, il empêchera de deviner. Donc, c'est la mise à distance du projet qui est importante, et enfin, qui est importante au sens... Et ça, c'est quelque chose que... C'est peut-être quelque chose qui est le projet, c'est le truc où on retrouve le moi.
C'est
ça. Et tout de même, moi, je... Et c'est quelque chose que j'ai vu aussi dans cet art que j'ai appris à, non pas à pratiquer, mais à estimer beaucoup, qui est l'art de tirer du tarot. C'est la première chose que l'apprenti en tirage de tarot doit faire, c'est cette chose bizarre que Auguste Breton pratiquait aussi dans ses ateliers d'écriture automatique. C'est-à-dire, c'est la main qui choisit. Mais c'est pas parce que je ne choisis pas que c'est par hasard. Donc je dois me tenir aussi éloigné du « c'est donc par hasard » que du « je choisis ». Et donc là, il y a déjà une transformation qui est une préparation à un événement qui ne sera pas lié à soi. Et si on n'est pas capable de tirer des cartes de tarot comme ça, on ne sera pas capable de... Le tirage ne sera pas bon, rien ne sera bon, quoi. Et donc, dans cette pratique-là, on fabrique, me semble-t-il, des lecteurs dans lesquels je ferai beaucoup plus confiance que dans nos psychologues diplômés fonctionnant à coup de références théoriques. Donc, là aussi, on voit dans une préparation, dans un apprentissage, quelque chose qui désigne le danger de penser en termes de projet ou de quelque chose qui transcende le présent de ce qui est en train de se... Oui, l'agencement, quoi. C'est des arts d'agencement, hein, pour moi. C'est au sens de Deleuze et Guattari. Mais quand un terme s'approprie l'agencement, ben, l'agencement est différent. Et il devient redoutable ou stérile.
Mais le fait que tu parles justement de cet art de l'agencement, ça me rappelle à l'atelier, pour revenir à l'expérience qu'on avait avec Philo il y a un moment. Mais qui continue à exister, je pense, au GECO, même si ça fait un moment que je n'ai pas pointé mon nez, mais c'est l'idée de justement cet art délicat, quoi, qui ne se laisse pas expliquer. Enfin, on peut bien tenter de l'expliquer, mais ça va au-delà de ça. Et je me souviens qu'à l'atelier, on avait essayé de se coltiner la question justement de la transmission et de la culturation, de l'intégrer au dispositif, en disant justement, en mettant les débutants entre guillemets en charge d'expliquer aux tout nouveaux débutants, enfin pour les obliger à prendre sur eux le fait de transmettre et donc de les intégrer dans cette
et donc de casser l'idée qu'il y a ceux qui ont l'autorité et
voilà,
et d'autres qui sont éternellement débutants.
Voilà. et effectivement, et c'est la même chose dans les réunions du GECO, ou de différents groupes, c'est comment est-ce qu'on gère un nouveau. Et avec Julien, c'est la même chose, quoi. S'ils travaillent ensemble depuis un moment, il y a l'idée de se dire, tiens, si quelqu'un débarquait, comment ça pourrait fonctionner. Et c'est vrai que c'est une question...
Ben, nous, on avait le problème, parce que c'était toujours des flux. Hein. on n'avait pas de principe de clôture. Et au GECO, il y en a... Ben, par exemple, dans les ateliers de lecture, je crois qu'il y a une espèce de... Effectivement, de consistance qui peut s'auto-reproduire et qui se traduit par... Moi, je dis, quand quelqu'un me dit est-ce que je peux venir aux lectures, je dis c'est ouvert. Mais la manière dont on lit, le type de lenteur ou le type de... la manière dont on lit, et qui varie avec chaque auteur qu'on lit d'ailleurs, mmh. eh ben, elle suffit comme principe de sélection. Si vous aimez ça, ça vous convient. Mais donc il y a une espèce de, effectivement, de un certain goût qui s'est constitué et qui fait que ceux qui viennent aux lectures disent bah, ça on n'avait jamais vu, hein, par rapport à d'autres lectures collectives où il y a quelqu'un qui a toujours le haut du pavé théorique, etc. Je crois qu'on a fabriqué un style qui a gardé des ateliers un certain goût pour l'attention à la dimension. Comment donner au livre ou à ce qui nous réunit le pouvoir de nous réunir.
Et est-ce que pour ces situations-là, est-ce qu'il existe encore un type de dispositif?
Non, on ne fait plus de dispositif, non. Parce que ce qui a cassé les dispositifs, finalement, c'était que, et ce qui a fait qu'on est passé à des ateliers de lecture, c'est que quand ce qui arrive souvent en fin d'année, on n'est plus que 4 ou 5, parce que, comme il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, ça, pour le moment, on lit le Foucault de Deleuze et la salle craque. Mais ça n'empêche pas et ça ne juge pas qu'en fin d'année, on ne soit plus que peu. Autour d'un livre, ça va. Autour d'un dispositif, ça ne tient pas. Donc c'est un peu la précarité, notre travail en flux qui a fait que les dispositifs ont cédé la place à ces dispositifs de lecture. C'est plus robuste par rapport à nos conditions de travail. Mais ça a aussi exclu, non pas tout le monde, hein, y a des gens qui ne sont pas philosophes et qui viennent. Mais enfin, ça exclut certains qui ne voient pas pourquoi ils passeraient leur temps à lire ce que Deleuze a écrit sur Foucault. Quoi.
Et de l'époque des ateliers de philo où vous travaillez sur des dispositifs plus expérimentaux, il y avait, la population était assez hétérogène?
Ça variait.
Oui, ça variait.
Ça variait.
Ah, donc en tout cas, moi je portais le témoignage que ça fonctionne dans d'autres catégories. Avec résistance et intérêt. Là récemment, on a eu. Il y a une personne du groupe qui a fait le témoignage et qui nous rappelait combien c'était difficile pour elle au début de pratiquer le dispositif tel que Jonathan nous l'a transmis. Et elle avait vraiment du mal, c'était difficile pour elle, de son propre aveu, de travailler dans ces conditions-là. Notamment le fait de devoir à un moment fabriquer un énoncé dont elle pouvait sentir qu'elle trahissait sa pensée. Bon, c'est toujours le même problème d'identification. Et, parce que voilà, en tant que danseur, on a l'habitude de créer des choses qui disparaissent en même temps qu'elles se créent.
Ouais.
Et donc il y a pas ce... On n'a pas l'arrêt de référence, ça disparaît. Toute la référence qu'on a, elle peut être, n'est que subjective, ce dont on se souvient. Et puis évidemment, le mouvement dans le temps et l'espace, ça n'a pas le même type de pouvoir et pas le même type d'écueil aussi que le langage. Donc elle avait du mal avec ça, avec le pouvoir propre au langage, à l'écriture, etc. Et en même temps, là, la semaine dernière, elle a fait aussi le témoignage de combien maintenant elle valorisait tout ce processus qui a été difficile pour elle, mais que ça a vraiment, au quotidien, transformé sa manière de penser, de se rapporter à des textes, de penser à plusieurs aussi, de se rapporter à ce que d'autres peuvent dire.
Mais c'est-à-dire qu'effectivement, il me semble que le fait de garder les énoncés, même si on ne prend plus le reste, c'est important parce que il me semble qu'il doit y avoir une différence entre un danseur aussi intéressant qu'il soit, mais qui est persuadé que le langage c'est pas pour lui, et quelqu'un qui sait que le langage est intéressant mais que c'est de la danse qu'il fait. Il y a beaucoup de cicatrices dans le langage c'est pas pour moi. Et ces cicatrices, elles doivent marquer le reste.
Et puis, s'exercer à la plasticité de la pensée dans un domaine, ça l'exerce aussi dans d'autres.
Exactement. Les cicatrices, c'est toujours des rigidifications qui ont des effets transversaux. Transversaux.
Non, puis on a aussi, ça a amené aussi toute une pratique de la parole, aussi pas forcément dans le cadre de dispositifs, mais plutôt pour se rapporter à des dispositifs ou à des... Donc on travaille aussi le dessin, et parfois on fait des séances de dessin, on a des dispositifs qui nous amènent à faire des dessins collectifs, et parfois on ralentit systématiquement ce processus, qui est déjà pas très rapide, mais on le ralentit encore en s'obligeant, après chaque intervention sur le dessin, à commenter et analyser ce qu'on fait. En fait, on le fait avant et après, c'est-à-dire j'observe la composition qui est en cours avant de moi y amener une intervention, et je vais verbaliser comment je lis le dessin, qu'est-ce qui se passe en moi en lisant ce dessin, et comment j'aurais envie d'y intervenir. Et j'y interviens effectivement sur un mode qui laisse une certaine porosité entre intention et dérive, entre projet et processus, qui fait que ce que je dessine, ce n'est jamais ce que j'avais pensé que je dessinerais. Et à nouveau, il y a un moment où je verbalise, tiens, maintenant, comment est-ce que je lis le dessin ? Comment est-ce que j'ai vu l'effectuation de mon projet et le tour qu'il a pris finalement, qui était imprévu ? Et des séances comme ça, donc où on en passe par le langage, par la verbalisation, sont extrêmement fertiles après. En l'occurrence pour cet exemple aussi sur le travail de dessin, de composition picturale, même une fois qu'après on écarte le langage, donc on fait une séance comme ça qui dure peut-être une demi-heure, et après pendant une heure on dessine sans parler, mais on voit vraiment la trace, l'effet d'être passé par le langage, et où les compositions sont beaucoup plus diverses les unes des autres, chaque action beaucoup plus spécifique, hétérogène les unes par rapport aux autres, etc. Voilà, tout ça pour donner un exemple sur effectivement l'importance de ne pas se considérer comme isolé du langage. C'est pas parce qu'on n'utilise pas le langage en philosophe ou en écrivain que ça fait pas partie des outils, des ressources.
C'est exactement ce que je crois, et surtout pour des gens qui peuvent avoir été, mais ça pourrait être pour des philosophes qui sont pas habitués à bouger, ça ça peut être aussi le cas, mais c'est très différent de dire c'est par là que je vais prendre des risques, etc., et de dire c'est par là et le reste c'est pas pour moi. Non. Le choix doit être de singularisation et pas d'exclusion, quoi. Enfin, doit être avantage à être de singularisation et pas d'exclusion, surtout par malentendu ou par expérience scolaire triste. J'avais une ex-amie qui faisait des ateliers de réconciliation d'adultes avec les maths. Et il venait des gens qui avaient conclu qu'ils étaient nuls en maths, mais qui sentaient que ça leur avait laissé une blessure. Et donc, elle les réconciliait avec les maths.
Mais c'est vrai que moi, l'effet que ça m'a fait quand j'ai travaillé un peu avec vous à l'époque de la résidence à Forêt, de me rendre compte, enfin de communiquer avec l'expérience atelier de philo, mais sur un tout autre champ qui mobilisait de tout autres ressources, ça a été, je ne vais pas dire une illumination, mais c'est un peu une révélation. Enfin, c'est une révélation, pas au sens conversion, quoi, mais c'est, ouais, c'était très impressionnant, quoi, de me dire, tiens, je touche bien quelque chose. Je sens bien que je suis en train de faire quelque chose qui est l'héritier d'un truc que j'ai gardé il y a 2 mois ou il y a je ne sais plus combien de temps. Mais on est dans autre chose.
Et pour reprendre la question que j'essayais de me poser, mais dont la réponse t'appartient, est-ce que l'expérience avec la danse, le mouvement, y compris des César, est-ce que ça permet de voir se profiler comment dirais-je, le type de garde-fou que ça produit par rapport à ce qui serait un risque propre au métier. Comme... Parce que Souriau dit globalement le projet, et ça convient assez bien pour le moi je pense, moi je suis ce que je dis, enfin je veux dire, et tout qui dit ailleurs, ça engage une... Ça c'était ce que les ateliers faisaient. On ne pouvait jamais suivre son intention de dire et de soutenir quelque chose très loin, puisqu'elle était sans cesse interrompue par d'autres, et qu'il fallait donc deviner ce que demandait la nouvelle situation. Donc, il y avait vraiment impossibilité de mener très loin ce qui était de l'ordre d'une intention de dire quelque chose. Mais ici, pour les danseurs, ce serait quoi ?
Ben, on a exactement le même type d'approche, c'est-à-dire à travers tout le projet, que ce soit dans le dessin, la danse, l'intersection danse-dessin, danse-pensée, dessin-pensée, on a exactement le même souci, et donc des stratégies différentes, mais qui permettent la même chose de se passer. Et pour nous, quand ça marche en danse...
Oui, mais ce serait une intention... Qu'est-ce que c'est... L'intention de dire quelque chose, je veux communiquer quelque chose, ouais. Et convaincre si possible, c'est pas la même chose en danse. Comment on le dirait pour ce dont le danseur doit apprendre à se défaire en se rendant compte qu'il n'y perd pas grand-chose?
Bah, c'est à nouveau se désidentifier, ouais. C'est-à-dire que ce mouvement... Cette intuition musicale, rythmique, ne lui appartient pas. Que ça ne représente pas... par exemple, un des écueils évidents pour nous, c'est comme on travaille beaucoup à partir des sensations et de l'imagination, on pourrait facilement être sur le mode de... Le mouvement qui vient de cette relation aux sensations et ou à l'imagination, ça exprime mon être profond, authentique, etc. Ce qui pourrait rendre très douloureux le fait de mettre ça en jeu dans un dispositif qui demande une composition collective et qui est une chose aussi qui a amené des frictions au départ dans le travail de dessin, où ça s'exprime plus facilement parce qu'à nouveau les traces elles restent. Et donc moi je vais faire une intervention sur une page, ça va donner une certaine trace, un certain dessin que après je vais remettre au milieu de la table et que vous, Jonathan, pourrez prendre et vous lisez la composition et vous faites une trace à votre tour qui peut éventuellement aussi se mettre carrément sur ma trace. Et donc parfois il y a eu des choses difficiles à accepter où on avait l'impression que s'il y avait cette trace qui était mise sur ma trace, c'est que ma trace, elle n'était pas acceptée ou qu'elle était effacée, ou enfin voilà, des choses comme ça. Ou bien, sans même aller jusque-là, mon intuition pour la composition ou mon désir pour la composition a été tout à fait transformé par votre intervention. Et c'était parfois difficile à accepter et c'était parfois pris comme un jugement sur soi plutôt qu'un travail sur la composition.
Est-ce qu'il y a un rapport entre... ce risque spécifique, enfin ce risque lié à je m'exprime, ouais, dans mon authenticité, par mes mouvements, et la manière dont, pour le surmonter, parce que ça m'a frappé l'idée que, parce qu'on n'avait pas ce genre de choses à l'atelier de philo, donc je travaille sur le contraste m'intéresse, ouais. La difficulté qu'il y a eu à rejeter certaines questions. Mmh. Comme si il fallait une bonne volonté collective pour du groupe. Et donc une espèce de... comment dirais-je de pour surmonter le rapport de « je m'exprime ben, ». Ce qui ferait un groupe qui aurait cette fragilité-là, parce que justement, tout ce qu'il met en danger serait vécu comme... Enfin, donc, est-ce que le montage de cet esprit de groupe ou de corps collectif est quelque chose qui vient se protéger les individus d'une attaque contre leur authenticité expressive.
Ben voilà, ça effectivement, c'est...
Et donc ça mettrait en question cette double... cette nécessité de protection, et que donc le groupe deviendrait un peu différent si les gens ont moins besoin de coller à leur subjectivité, à leur authenticité.
Bah oui, moi je pense que cette volonté de travailler collectivement, c'est un double tranchant, c'est-à-dire moi je l'imagine comme une ressource pour aussi que chacun se mette en lien au collectif qu'il est lui-même, c'est-à-dire à ces espèces d'élans hétérogènes qui se croisent en lui et qui échappent à sa maîtrise, à sa souveraineté sur lui-même. Mais effectivement, ça peut être pris aussi, le collectif, comme havre pour que chaque individu soit respecté et sa place soit respectée dans son individualité, dans son authenticité, etc. Et c'est dans cette... Dans cette divergence d'interprétation de ce pourquoi ces compositions sont collectives, que ça a parfois pu être un peu douloureux ou être en friction ou difficile.
Mais c'était là que c'était important.
Ben oui, bien sûr. Ouais. C'était là que c'était important et c'est là qu'on a appris aussi. Et que a posteriori, en regardant en arrière, ce que je peux voir aussi, c'est que ce qui était mon intuition de départ, mais ce qui est maintenant plus accepté et partagé dans le groupe, c'est que chacun est plus fort que d'être dans un collectif qui ne les laisse pas être souverains de ce qu'ils produisent et qui ne les laisse pas être maîtres de ce qu'ils produisent. On est plus fort là-dedans qu'à être un groupe qui protège... la soi-disant authenticité de chacun et qui se veut un cocon pour chacun. Donc, finalement ça maintient une fragilité, une frilosité, et que là on est tous plus forts à accepter que
ça, ce serait une singularité cousine mais tout à fait intéressante, parce que en philo on travaille pas en groupe usuellement, donc c'était le seul fait de travailler en groupe qui était enfin on travaille, ouais. Tandis qu'ici, c'est qu'est-ce que c'est que ce groupe, est-ce que et ça me rappelle un peu dans Mille Plateaux les exemples de hordes, de meutes, qui sont pas des groupes qui s'entreprotègent, mais où on fait confiance aux corrélations qui n'appartiennent à personne, pas aux intentions, aux gentils, mais la meute est une multiplicité corrélée, puisque chaque mouvement que fait un participant à la meute, qu'il passe au centre, qu'il passe à l'extérieur, etc., se répercute, mais sans intention de bonne volonté, de protection, etc. Ça fonctionne sur les répercussions et les corrélations. Mmh. Oui, parce que pendant que vous parler, tout à coup il y avait la musique dans mon nom et personne, tu sais, quand ils reprennent la Wild Bunch, la Horde Sauvage, c'est du Wagner. Non, mais c'est vrai que quelque part, la manière dont Deleuze et Guattari s'intéressaient à ce genre de choses, et donc l'idée de meute ou de etc., c'est cette figure d'un groupe qui tient, mais par liaison délocalisée, et qui n'est ni négation de la singularité, qui ne joue pas sur le nous ou le je. C'est ni nous ni je, c'est quelque chose comme un on, mais un on qui ne cesse de se recréer, pas un on statique de la statistique ou des majorités. C'est pas le tout le monde sait que, on sait que, non, c'est ce on qui ne cesse d'explorer ce dont il est capable, et ça demande effectivement une pas trop grande fragilité des membres, parce qu'ils ne doivent pas compter sur la bonne volonté ou sur l'attention tendre des autres. Ils doivent faire confiance à, au fait que ce qu'ils font est, que ce qu'ils font est, est, est pris dans, dans un ensemble.
Mais pour ma part, dans, dans la pratique, et en pensant à des exemples concrets, je me dirais que c'est pas tant que les membres ne doivent pas être fragiles, c'est peut-être qu'ils doivent accepter leur fragilité comme une ressource aussi.
Exactement, oui, c'est ça que je voulais dire. Pas fragile au sens de manifester. Je suis fragile, faites attention.
Ouais.
Pas porter un t-shirt, prenez soin de moi. Non, non, ils sont, tout le monde est fragile,
voilà,
justement.
C'est ça, voilà. Et c'est souvent
et
là
l'idée
aussi,
de ce groupe, c'est que même les forces sont mises en situation d'être fragilisées dans le type de force qui faisait leur... Donc c'est... Non, c'est des opérateurs de, d'une bizarre égalité.
Non, c'est justement aussi souvent là où, on, où, où le dispositif touche des fragilités que si on ne se crispe pas dessus et si on ne s'y identifie pas, c'est souvent là aussi que se passent des moments où, où, le, où tout fleurit. Où le...
On se rend compte qu'on n'en meurt pas.
Ben, on se rend compte qu'on n'en meurt pas à titre individuel, mais c'est aussi souvent le collectif en profite dans le sens où voilà, fleurit quelque chose de singulier, d'inattendu, d'inédit, de, et où tout le monde peut participer à cette fragilité et la transformer. Et donc souvent là où ça coince, en tout cas d'un point de vue pragmatique, nous souvent dans le studio, là où ça coinçait, c'est là où il fallait insister avec attention, mais où il fallait insister pour que quelque chose...
Mais ce qui m'intéressait dans, dans la négociation de, des dispositifs, c'était que justement, il y avait moyen d'insister justement parce que c'était comment faire pour que ça marche et jamais c'est ta faute. Non, non, c'était toujours, hein, ça, c'était quelque chose qu'on s'était donné comme consigne. Bon, il y avait accueillir les nouveaux, ça, il fallait leur refiler les contraintes. Mais si quelque chose ne marchait pas alors que on était, la question n'était pas comment faire passer aux nouveaux que s'il fait comme ça, il va tout foutre en l'air, c'était... si quelqu'un a fabriqué quelque chose qui semble mettre en danger ce qu'on essaye, c'est les règles qu'il faut changer, c'est les règles qu'il faut étudier.
Ouais, c'est ça.
C'est pas une mise, c'est jamais une mise en cause personnelle. C'est, et ça c'était, ça c'est pour moi c'était, c'est quelque chose qui a continué au GECO. On ne se met pas en cause personnellement. On met en cause le processus qui fait que certains ont été embarqués dans ce type de, d'attitude, quoi.
Oui, c'est exactement comme ça qu'on travaille aussi. Et bon, aussi, la situation spécifique de la danse, c'est qu'on a l'habitude de travailler collectivement, en tout cas avec un groupe, etc. Mais il y a aussi ce rapport interprète-chorégraphe. Donc cette hiérarchie ou cette distribution des fonctions, et c'est vrai qu'il y a aussi cette chose là qui m'intéresse moi, c'est de qu'on puisse créer des dispositifs où effectivement quand ça marche pas, ce qui est remis en cause, ce n'est pas l'interprète qui comprend mal le chorégraphe, c'est
même si c'est le cas, on s'en fout,
c'est le dispositif qui est pas exactement assez robuste, qui
même
est pas,
si c'est le cas, au sens, même si on pense que c'est le cas. Et ça, c'était quelque chose qui était très fort dans Starhawk. Je ne sais pas si vous avez lu.
Ben non, je lis souvent dans vos textes des références à
cette personne. Justement, c'est cette dimension d'artifice, mais les règles, et c'est toujours l'idée d'artifice, qui est que même quand on est intimement convaincu qu'un tel est vraiment un emmerdeur, il faut fabriquer la situation comme si ce qu'il faisait appartenait à la situation. Et donc, c'est à la situation qu'il faut s'adresser et jamais... Et ça, je crois que c'est une règle que que j'ai aussi connue, parce que c'est souvent quand il y a des recoupements comme ça entre expériences hétérogènes que je me dis, tiens, là, il y a quelque chose qui est important parce que ça se recoupe dans des dispositifs de palabre auxquels j'ai eu le bonheur d'appartenir, et là aussi avec des Africains. Donc c'est le moment où là il n'y a pas d'être, si il y a un être, mais il n'y a pas de comment dirais-je, de divinité. Cet être, moi je l'ai appelé l'ordre du monde. C'est quand des gens, comment dirais-je, quand il y a un problème, par exemple un problème, là c'était un problème entre mère et adolescent, donc un problème absolument classique chez nous, et que se réunissent alors des gens qui, c'est pas tout un chacun, c'est des gens qui s'entrent, reconnaissent, et la manière dont ils vont participer est l'épreuve de cohérence, comme en sachant un bout sur l'ordre du monde. Ça, c'est ma manière de parler. Mmh. Donc il n'y aura pas d'adolescents, parce qu'ils disent, mais ceux-là même qui aimaient. Mais ça veut dire que s'ils doivent se réunir, c'est que l'ordre du monde tel que chacun le conçoit n'est pas suffisant pour ce problème-là. Donc ils en savent un bout, mais il est tout aussi entendu que le bout qu'ils savent ne suffit pas à ce qu'on sache comment penser cette situation. Et donc ça fabrique un truc où chacun parle, non pas à partir de ses idées, mais sur un mode qui traduit qu'il livre ce qui sont son accès à l'ordre du monde. Et donc on ne va jamais dire à quelqu'un d'autre, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que c'est l'ordre du monde qui parle aussi à travers l'autre. Et donc ça fabrique un style de parole qui est plutôt de proverbe ou de réflexion un peu générale, et ça tourne. Lentement, ça revient, c'est répétitif. Et, comme on dit à chaque fois, ça, dans les trois fois où j'y ai participé, primo, je me rends compte que je suis mieux que d'habitude. Je veux dire que ça me fait sortir des ressources que j'aurais jamais pensé produire sur ce mode-là, en tout cas. Donc ça me fait découvrir des ressources. Je me rends compte que les gens que je connais sont infiniment plus bien mieux que je ne les connaissais. Je me rends compte que tout à coup, un Africain qui probablement est un vendeur de babioles, qu'est-ce qu'il parle, enfin, donc il y a cette espèce de transmutation liée aux contraintes. Nous sommes... Et ça passe au sens où il y a, un peu comme dans le tableau, convergence. Et on se rend compte que l'ordre du monde est passé. C'est-à-dire qu'il y a, après, consensus sur comment voir la situation et comment s'adresser à la mère et à l'adolescent, etc. Bon, après, ça marche ou ça marche pas, là, hein, comme avec la mère et les adolescents. Mais en tout cas, ça a produit quelque chose où ce mot que j'emploie, parce que chacun dit comme on veut, mais l'ordre du monde, c'est pas une puissance statique, c'est pas un modèle, c'est quelque chose qui doit passer à nouveau, à partir, mais qui se réinvente. C'est pas de la table rase, puisque ceux qui sont réunis sont promus à participer à cette réunion parce que ils sont capables de parler ainsi. Donc l'idée d'en savoir quelque chose et être capable de parler ainsi, c'est totalement cohérent. Il n'y a pas de, il n'y a pas de principe qui transcende la capacité de participer à un groupe comme ça.
Mais ce qui est particulier aussi à tel dispositif, c'est que les spécialistes qui sont convoqués, ils repartent aussi de ça en ayant appris quelque chose de la situation.
On ne peut pas dire qu'ils ont... C'est un peu comme l'atelier de philo. Je ne suis pas parti en disant « je vais aller écrire un article à ce sujet ». Mais ils ont été modifiés. Ils ont été modifiés. Ils ne pourraient pas exactement dire comment, indépendamment de ce qui est advenu, mais ils ont été modifiés.
Et donc, parce qu'on parle de ce dispositif, vous avez fait référence aussi à Starhawk il y a quelques minutes. J'avais aussi relevé dans ce livre-là, La sorcellerie capitaliste, vers la fin aussi, un passage où vous décrivez le dispositif où rentre en ligne de compte le serpent, quelqu'un qui a la fonction de serpent, et vous parlez d'importance de. Bon, vous parlez de cette chose-là, de. Quoi qu'il se passe, quels que soient les gens présents, en faire un élément de la situation plutôt que de laisser les événements être localisés chez une personne, identifier l'événement et la personne. Et donc ce serait le rôle du serpent justement d'amener tout ce qui se passe dans la situation, enfin de faire que tout ce qui se passe soit partie de la situation. Il y a aussi cette insistance sur déployer toute l'hétérogénéité des points de vue ou de ce bout que chacun sait sur l'ordre du monde, pour prendre l'exemple que vous parlez. Donc l'importance de déployer l'hétérogénéité présente comme étant l'hétérogénéité et la complexité de la situation.
Oui, mais ça c'est ce que je mets sous le compte de l'artifice, parce que la pulsion naturelle, c'est d'attribuer à quelqu'un. Oui, si tu dis ça, c'est parce que je sais bien, enfin, c'est de remonter de l'attitude à son auteur. Ici, interdit de remonter de l'attitude à son auteur. Ce qui est fait autrement dans ces groupes-là que dans les palabres où eux, les Africains, ont cette habitude, je veux dire. C'est une culture profondément différente sur ce qui pour nous serait de l'ordre du vrai, pour eux est de l'ordre du mauvais goût. Je veux dire, de la polémique, il n'y a jamais de vérité dans des rapports polémiques. La vérité doit passer ailleurs que par la polémique, alors qu'en philo, ben, c'est par la polémique que tu te trompes, donc j'ai raison. C'est. Donc ici, c'est avec des Occidentaux, donc ils doivent le faire beaucoup plus activement que les Africains n'ont, enfin, ne savent le faire. Je crois qu'il y a quelque chose de très fort dans cette culture africaine. Mais donc, c'est un peu la même chose. Hein. Le serpent est celui qui va être aux aguets par rapport à tout, à la manière dont certains se mettent à se taire, dont trop vite un pseudo-consensus pourrait se créer, qui en fait est composé de ceux qui ont, comment dirais-je, de ceux qui ont fait taire les autres. Et si le serpent peut opérer, c'est justement, comment dirais-je, dans la mesure où on peut se dire, ben, si un accord est fabriqué avec le silence de certains, avec l'humiliation de certains, avec le découragement de certains, la fatigue de certains, cet accord mutile la situation. Donc, mais encore une fois, il y a une auto-sélection dans cette technique de consensus, puisque bien évidemment, tous ceux qui sont rassemblés doivent être intéressés par la décision à prendre. C'est pas le débat démocratique. Et donc, ça veut dire.
En quel sens ce n'est pas le débat démocratique?
Ben, le débat démocratique, c'est. On admet une hétérogénéité qui n'a aucune chance de. Comment dirais-je? Si par exemple il y a un groupe qui se réunit pour décider d'une action politique, c'est qu'il y a un accord sur ce qu'on, comment dirais-je, une espèce de situation politique au sens générique, et que le problème c'est, est-ce que cette action ici est opportune, est-ce qu'on a les moyens de la mener, comment elle s'inscrit dans, etc., qu'est-ce qu'elle implique. Mais on ne va pas en revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire essayer de prouver que le néolibéralisme est un problème, etc. Donc on ne s'adresse pas à on considère que tous ceux qui sont réunis sont intéressés par la situation telle qu'elle va se dégager avec tout ce qu'elle requiert de « on est ici en lutte ou en résistance contre telle ou telle dimension du monde ». Je ne sais pas s'il y a des... Et donc, mais comme tout qui a une expérience politique le sait, ce genre de réunion, de groupes politiques, de groupes activistes, etc., est usuellement ultra pénible. On est tous d'accord sur l'essentiel, mais à part ça, on se massacre joyeusement. Donc c'est là qu'ils interviennent. C'est dans les gens qui se prétendent d'accord sur l'essentiel, mais qui ne peuvent pas fabriquer, comment dirais-je, une quelconque cohérence qui ne passe pas par la fatigue, le découragement, etc. J'étais par exemple dans le temps chez Gauche Unie. J'aurais pas eu envie d'amener un ami dans les réunions qui se produisaient là. C'était trop, c'était sacrificiel. C'était décourageant. Donc, le fait qu'on se réunisse entre des gens qui seront dit d'accord sur l'essentiel n'épargne rien. Ça donne simplement un style où on peut se reposer sur le fait qu'on est d'accord sur... c'est un peu comme... au début de la seconde vague du féminisme, comme on dit dans les années 70, on avait décidé de, les femmes avaient décidé de tenir des réunions rien qu'entre femmes. Ça avait fait scandale. Et moi, j'ai participé depuis à des réunions de femmes où il y a tout à coup un homme. Il y a des hommes avec qui tout se passe très bien. Mais j'en ai vu régulièrement où il y a un homme qui arrive et qui se met à poser des questions qui requièrent les participantes de se justifier d'être féministes. Donc des questions de droit, de légitimité, qui font que toute dynamique s'écroule et est remplacée par une profonde scission entre les femmes. Mais ça, c'était parce que c'était arrivé par surprise. Un groupe plus expérimenté ferait autrement. Mais... les unes acceptant de faire basculer la réunion pour convaincre ce mec, qui se trouve donc au milieu, on ne s'adresse plus qu'à lui, il est celui qui... Et les autres qui râlent formidablement en disant, mais enfin, vous voyez ce qu'il est en train de nous faire. Et donc, quand un groupe n'a pas pris ses décisions sur ce genre de truc, il peut être complètement démembré par ce type d'intervention. Et ce type d'intervention, c'est, dans mon expérience, typiquement, non pas les hommes qui les font, mais il faut être un homme pour faire ça, pour oser poser des questions qui font que tout ce qui était en train de se construire va se défaire et qu'il va être celui qui demande des comptes sur le sens de tout ça.
Bah c'est le cas dans un groupe féministe. Moi, j'ai pris part à un groupe de discussion il n'y a pas longtemps et une femme a produit ça.
Ah, merde.